20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Ils célébreront le cinéma le 6 avril à la scène musicale. La violoniste Geneviève Laurenceau et le chef Benjamin Lévy seront à cette occasion nos invités ce soir. Avant que Thierry Ilerito du Figaro nous rejoigne, comme tous les mardis, pour nous dresser le portrait d'un jeune artiste, en l'occurrence cette semaine, l'accordéoniste Élodie Soulard. Mais pour commencer notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale, on vient d'apprendre la disparition à l'âge de 81 ans du contre-ténor britannique James Bowman. Formé au New College d'Oxford, il s'est illustré en tant qu'interprète de Britten et bien entendu du répertoire ancien, aux côtés de Gustave Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt ou encore Franz Bruggen. Sur les plus grandes scènes, Glyndebourne, Covent Garden, La Scala, Amsterdam, Aix-en-Provence, San Francisco... Avec Alfred Deller, James Bowman aura largement contribué à remettre à l'honneur la voix de contre-ténor et ainsi inspirer des générations de chanteurs. Il est canadien, il n'a que 15 ans, mais fait déjà fureur sur de grandes scènes internationales. Le pianiste Ryan Wong nous dévoilera ses talents vendredi soir à la Fondation Louis Vuitton, dans le cadre du cycle Piano Nouvelle Génération. Il jouera un programme qui mettra en valeur différentes facettes de son répertoire, de Haydn à Ravel, en passant par Liszt et Chopin. Un récital qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique. L'Orchestre des Champs-Élysées s'apprête à repartir en tournée sous la direction de Louis Langrée et avec le pianiste Bertrand Chamaillou ainsi que l'organiste Vincent Varnier. Une tournée qui passera par Poitiers demain, Châlons en Champagne vendredi et la Philharmonie de Paris dimanche, avec un programme entièrement dédié à Saint-Saëns, la danse macabre, le 5e concerto et la 3e symphonie avec orgue.
Laure Maison sur Radio Classique.
Ils ont enregistré ensemble il y a 2 ans un merveilleux album dédié à Saint-Saëns et ils se retrouveront le 6 avril à la scène musicale pour célébrer cette fois-ci la musique de film. Geneviève Laurenceau et Benjamin Lévy nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Cela fait longtemps que vous jouez ensemble, que vous partagez des projets ensemble tous les deux.
Pas si longtemps que ça.
C'est l'amitié date d'il y a quelques années malgré tout, et c'est une amitié humaine et musicale. Et c'est vrai que ça s'est concrétisé vraiment avec cet enregistrement autour de Saint-Saëns.
Et Geneviève était venue aussi avec l'Orchestre National de Cannes jouer en soliste avec ses chanteurs d'oiseaux.
Et un très beau souvenir pour moi aussi, c'était les 4 saisons de Vivaldi, dernièrement, la saison dernière. Donc ouais, c'est vrai magnifique. Que j'ai la chance de revenir souvent. Voilà, dans ce merveilleux orchestre que Benjamin a fait revivre de façon vraiment magistrale
de Cannes. Et justement, le fait que Geneviève ait longtemps fait partie d'un orchestre, puisqu'elle a été pendant de nombreuses années violon solo de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, est-ce que, du coup, Benjamin Lévy, vous avez l'impression qu'elle comprend d'autant mieux les rapports entre l'orchestre et le soliste en concerto?
Absolument, c'est tout à fait différent. C'est vrai qu'un soliste qui a fait partie, même si c'est à une place de soliste, et donc ça n'est pas vraiment dans l'orchestre, le premier violon solo est un peu le relais entre le chef d'orchestre et l'ensemble des cordes, ça fait un rapport tout à fait différent, et une ouverture d'oreille et une ouverture d'idées musicales qui est tout à fait palpable.
Alors vous, Geneviève Laurenceau, qui avez joué sous la direction de tant de grands chefs d'orchestre, comment caractériser l'art, la direction de Benjamin Lévy ?
Merci de me poser cette question devant.
Je vais sortir du studio, tu peux.
Devant
tu
Benjamin.
Peux répondre.
Alors, c'est le mouvement, je dirais, c'est-à-dire le mouvement musical, le mouvement de la vie, c'est-à-dire que tout est sans cesse en mouvement. Ça tombe bien parce que c'est aussi comme ça que j'imagine la musique. Il a une direction féline et souple. Je trouve que c'est une direction aussi très humble parce que c'est un chef qui se met à la hauteur de ses musiciens et qui joue avec. Qui joue avec. Donc on peut imaginer aussi de ce fait l'envie des musiciens de jouer avec lui. Voilà, beaucoup de vie, beaucoup de pétillance, de souplesse et beaucoup d'humilité parce que parce que là, derrière aussi, je crois qu'il y a un vrai discours, une vraie sincérité et une profondeur.
Je vais devenir aussi rouge que le logo de Radio Classique.
Allez, pour se rattraper, le violon de Geneviève Laurenceau par Benjamin Lévy. Pour la faire rougir à son tour.
Absolument.
Histoire de s'accorder à vos couleurs.
Ah, c'est difficile à définir parce qu'il y a tellement d'admiration et tellement d'amitié. C'est la justesse musicale. Vraiment. Le naturel. La beauté du son. Et la compréhension du discours musical. Bon, ça va, tu es aussi rouge que le logo.
Bah écoute, tu vois.
Romance pour violon et orchestre de Camille Saint-Saëns par Geneviève Laurenceau et Benjamin Lévy, à la tête ici de l'orchestre de Picardie. Geneviève Laurenceau et Benjamin Lévy qui sont nos invités ce soir sur Radio Classique pour parler du concert qu'ils donneront le 6 avril à la scène musicale autour de la musique de film. Alors cela tombe bien parce que Saint-Saëns, c'était le premier compositeur de musique de film, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. L'assassinat du duc de Guise. On l'avait donné d'ailleurs avec l'orchestre de Cannes pour un gala à Saint-Saëns, en projetant le film. Et d'ailleurs, il y a une partie du film qui a disparu, donc on continuait la musique avec l'écran noir. Et là, je suis très content de retrouver mon très cher orchestre de chambre Péléas, qui est un orchestre fondé par et pour des amis, et une sorte de petit jardin d'Éden. Voilà, on se retrouve de loin en loin pour des projets choisis, et je suis très content qu'on fasse ça avec Geneviève.
Alors, il n'y aura pas de musique de Saint-Saëns, il n'y aura pas la musique de l'assassinat du duc de Guise, mais d'autres compositeurs, et notamment de compositeurs comme Delrue, Cosma, Rota ou encore John Williams. Qu'est-ce qui fait, selon vous, leur force, que leur musique s'accorde si merveilleusement à cet art qui est celui du cinéma? Il y a une dimension narrative, un lyrisme, un sens des couleurs. Geneviève, comment le percevez-vous?
Je ne sais pas trop quelle serait la différence entre un compositeur de film et un compositeur de musique quelle que soit la musique d'ailleurs. Apparemment, ce sont des gens qui parlent aussi des mêmes choses, qui parlent de la vie, qui parlent des émotions, et qui arrivent, j'imagine, quand même à se couler dans un thème donné au départ. Et c'est vrai que pour un interprète, le fait de se couler justement dans ces thèmes et dans cette musique, ça... On se coule peut-être différemment que dans un concerto, qui est de la musique pure.
On pense aux images, on pense aux
parce
séquences.
Parce que justement, il y a toute cette histoire, il y a toute cette théâtralité derrière qui fait qu'on est très emprunt, très inspiré en fait de cette histoire et de cette musique.
Oui, parce que j'imagine quand vous jouez la liste de Schindler de John Williams, qui je crois est au programme de, oui, de ce concert, il y a tout le drame du peuple juif auquel vous pensez en même temps.
Oui, et ça donne une toujours
ghetto,
une, ouais, ça donne une dimension particulière à ce moment. La liste de Schindler, je l'ai déjà joué. C'est une pièce qui a une dimension toute particulière parce que c'est justement c'est tout ce qu'elle porte avec elle. Et je me sens aussi toujours quelque chose d'un peu particulièrement peut-être de responsabilité sur les épaules. En tout cas, je porte quelque chose de cette histoire aussi quand je joue cette pièce. Et ça, oui, ça lui donne une couleur, une ferveur toute particulière.
Comment avez-vous choisi justement, Benjamin Lévy, les thèmes qui seront joués à l'occasion de ce concert ?
Alors, on a eu un souci d'éclectisme, oui, aussi bien dans l'origine des compositeurs. Il y a des compositeurs français, des compositeurs italiens, il y a du Nino Rota, des compositeurs américains, du Bernard Herrmann, également Ennio Morricone. Et puis... aussi de choisir des musiques qui parlent immédiatement, parce que peut-être la spécificité, enfin une des spécificités des compositeurs qui composent pour l'image, que ce soit le film, la publicité, les séries, tous les dessins animés, toutes sortes d'images, c'est le peu de temps qu'ils ont. Il faut qu'en quelques mesures, ils puissent incarner ce qu'ils veulent raconter. Ils n'ont pas le temps d'un mouvement de symphonie, ils ont quelques secondes, quelques minutes. Et j'avais eu la joie de rencontrer Lalo Schifrin il y a 2 ans à Los Angeles, parce qu'on a créé un concerto pour mandoline de lui. Et donc j'ai eu la grande joie de le rencontrer. Et puis, on parlait bien sûr de son tube absolu, Mission Impossible. Et il disait en fait, Bruce Geller, le producteur de Mission Impossible, lui avait demandé, moi je veux un thème pour que, bien sûr il n'y avait pas la rediffusion, le replay à l'époque, il s'était diffusé juste à une certaine heure les épisodes de la série, et il lui avait demandé, je veux que le gars qui est dans sa cuisine, qui est en train de se préparer un sandwich et qui entend pom, 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 il dit, ah, c'est l'épisode qui commence. Et que ça incarne l'esprit aussi de la série. Et c'est vrai que dans toutes les musiques qu'on a choisies, que ce soit d'ailleurs des musiques composées spécifiquement pour le film, comme les musiques de Delerue pour La Nuit Américaine, ou pour Le Mépris, ou de Morricone pour Mission, ou de Vladimir Kosma pour Le Grand Blond, ou le Concerto de Berlin, des choses comme ça. Il y a aussi des musiques qui ont été réutilisées. On fait l'intermezzo de Cavalleria Rusticana de Mascagni qui a été utilisé dans Le Parrain, par exemple.
Une scène merveilleuse, la scène finale du Parrain 3, c'est ça,
voilà, ouais, exactement, où le cri est remplacé par l'orchestre, ouais. C'est absolument merveilleux. Et du coup, ces musiques-là, qu'elles aient été composées spécifiquement pour le film ou qu'elles soient des réemplois, incarnent immédiatement l'esprit et les images du film. D'ailleurs, on a choisi pour ce concert de ne pas diffuser d'images, mais j'ai choisi de faire entendre au public quelques audios des extraits de films, par exemple dans le château de ma mère, avant qu'on joue la valse d'Augustine, il y a quelques phrases du film et ça plonge immédiatement dans l'ambiance. Et d'ailleurs, c'est presque superflu, parce que la musique elle-même est tellement évocatrice du film que l'image est presque superflue.
Oui, et c'est vrai que du coup, en jouant ces musiques de film, vous nous renvoyez des images, vous nous renvoyez à notre propre vie, vous évoquiez Mission Impossible, moi je repense à mon enfance quand j'entends ce thème. Donc finalement, vous touchez les gens au plus profond d'eux-mêmes, de leur vie intime, de leur enfance, à travers en plus un art qui est l'un des plus populaires. Cette dimension populaire, elle est essentielle pour vous deux, le fait de pouvoir toucher aussi ce public d'une autre façon. Geneviève.
Oui, on dit parfois que la musique classique est un peu réservée à certains qui pousseraient la porte d'une salle de concert. Ce que j'aime faire, moi, à travers aussi certaines de mes pratiquement missions, hein, c'est en effet, par exemple, au Festival d'Aubernais, que j'organise chaque été, c'est vraiment essayer d'ouvrir au maximum la musique à tous, en passant par des portes, peut-être, qui rendent cet accès plus facile. Et là, c'est vrai que ces musiques de films qui ont été choisies, ce sont des chefs-d'œuvre, ce sont pas des chefs-d'œuvre extrêmement élitistes, c'est juste des immenses moments cinématographiques. Et donc, ça va certainement éveiller en chacun des souvenirs, comme vous le disiez, ou ça va faire remonter comme un très très grand livre qu'on aura lu quelques années auparavant et qui, en le relisant là aussi, fait ressortir encore d'autres choses, d'autres émotions. C'est cette reconnexion à soi que l'on recherche à travers la musique et donc aussi la musique de film.
Quelques notes de West Side Story de Leonard Bernstein dans l'arrangement de Fabien Touchard que vous avez enregistré, Geneviève Laurenceau, avec vos partenaires des Smoking Joséphine. On vous retrouvera donc en concert pour célébrer la musique de film avec Benjamin Lévy le 6 avril à la scène musicale. Benjamin Lévy, vous dirigerez votre orchestre de chambre Péléas alors que vous êtes le directeur musical de l'Orchestre National de Cannes, directement lié au cinéma puisque c'est la ville du cinéma, la ville du plus célèbre festival de cinéma. Vous jouez souvent, en tout cas régulièrement, de la musique de film à Cannes.
C'est vrai que c'est un tropisme qu'on a de plus en plus et qu'on continuera d'avoir avec l'Orchestre National de Cannes, de par notre localisation.
Ben
ça,
oui.
C'est sûr que quand on dit Cannes, à l'autre bout du monde, tout de suite, le mot qu'on dit, c'est cinéma. Et aussi parce que c'est vrai que je suis assez fasciné par la compréhension du discours dramaturgique, cinématographique qu'ont certains compositeurs. Il y a des vrais chefs-d'œuvre dans la musique de film, que ce soit des chefs-d'œuvre purement musicaux ou des chefs-d'œuvre justement qui ont trait à vraiment la qualité narrative de cette musique et la qualité évocatrice de ces musiques. Et puis c'est vrai que bon, dans notre métier, c'est de moins en moins vrai. On jouait beaucoup, toujours un peu la même chose. Enfin, les grandes œuvres du répertoire reviennent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a énormément de découvertes à faire, et dans ce domaine particulièrement.
Et d'ailleurs, vous donnerez une œuvre de Nino Rota bientôt avec votre orchestre de Cannes, le 30 avril à Cannes et le 3 mai à Arles, un concerto pour piano de Nino Rota dans le cadre d'un ballet.
Voilà, c'est ça, parce qu'il y a une grande école nationale de danse à Cannes qui s'appelle l'école nationale Rosella Hightower. Et il y a un programme justement de Nino Rota avec donc les danses du Guépard qu'on joue également là, à la scène musicale le 6 avril, et également ce concerto soirée pour piano et orchestre, et c'est Lydia Bizia qui vient jouer.
Voilà, un concerto qui n'a pas été écrit pour un film, puisque Nino Rota a aussi écrit de la musique hors du milieu du cinéma.
Et on jouera aussi le concerto pour contrebasse avec Dusan Kostic, notre nouveau contrebasse solo. Et c'est assez amusant parce que quand même dans sa musique pure, on a l'impression que ça pourrait servir de musique de film.
Alors quels seront les autres grands rendez-vous à venir avec l'Orchestre National de Cannes après ce concert à la scène musicale? J'ai noté, j'ai travaillé pour vous, Benjamin Lévy, si vous connaissez pas par cœur. Le 6 mai, notamment, à Antibes, un programme Dvorak, Saint-Saëns, Mendelssohn.
Avec Edgar Moreau.
Voilà, avec Edgar Moreau. Et puis, juste avant, quelques jours avant, le 16 avril, alors ce sera avec Rebecca Tong, à qui vous confiez votre orchestre, et Nicolas Stavy, le deuxième concerto de Shostakovich.
Absolument. Et on jouera également pour l'ouverture du festival Cannes Série.
Ah oui.
Et ça, c'est le 14 avril. Voilà.
Et pour vous, Geneviève, les rendez-vous à venir après ce concert à la scène musicale, une scène musicale que vous connaissez bien d'ailleurs.
Je connais bien, et en effet, j'ai été pendant 5 ans là-bas en tant que professeur et un peu résidente à l'Académie Jarouski. Alors, je partirai à Aix, non pas pour le festival de Pâques à Aix, mais pour retrouver mes étudiants au pôle sup d'Aix. Et puis, je serai en concert avec un projet un peu particulier, avec le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, dans un projet autour d'Einstein. On va évoquer la figure d'Einstein alors à travers ses découvertes, mais également à travers son amour du violon. Et on va voir, donc évidemment avec les explications lumineuses d'Étienne Klein, à quel point le violon pouvait le faire accéder à cet état justement d'ouverture totale et d'inspiration même, qui allait bien au-delà du côté pragmatique de la physique. Et ce sera le 20 avril au Point d'eau à Oswald, en Alsace.
Voilà. Et est-ce que vous donnerez ce programme à Aubernais dans le cadre de votre festival cet été, où vous aimez justement inviter des personnalités de différents horizons?
J'ai prévu d'autres choses encore. Un peu original aussi à Aubernais, mais ce ne sera pas ce spectacle-là.
Merci infiniment Geneviève Laurenceau et Benjamin Lévy. Donc rendez-vous dans quelques jours, le 6 avril, à la scène musicale. Et on va se quitter avec un extrait de cet album que j'adore, qui est sorti cette saison. Vous étiez venu nous en parler. Qui nous transporte sur la Riviera, au temps des années folles, avec l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre National de Cannes. C'est un programme qui a connu un vif succès. Et on va se quitter avec, puisqu'on va rester sur le thème du cinéma, un extrait de Pas sur la bouche, qui a inspiré un film à Alain René, un chef-d'œuvre du cinéma d'ailleurs. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Sur le quai Malaquais. Au 23, une passe à chat, sans faire d'académicien, mais ça ne vous gêne rien. Ce soir, bien bonheur, tel c'est l'encadreur. En battant le pavé, j'ai trouvé, pour nous deux le petit émoi rêvé. Demain de 5 à 7, c'est très net, on se donnera des baisers fous. Je vais vous dire oh, sur le quai Malaquais. Au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Je viens d'avoir les clés, c'est réglé, d'un joli petit appartement meublé. C'est beaucoup mieux que l'hôtel, y'a rien tel.
Donnez-moi l'adresse vivante, votre appartement.
Sur le quai Malaquais.
au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'on 4 heures.
C'est le temps, 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 c'est le temps.
Le savoureux final du deuxième acte de l'opérette « Pas sur la bouche » de Maurice Yvain, qui figure au programme du tout récent album de Benjamin Lévy avec son Orchestre National de Cannes, intitulé « Croisette ». Benjamin Lévy en concert avec Geneviève Laurenceau et l'Orchestre de Chambre Péléas le 6 avril à la Scène Musicale.
Nouvelle génération de Thierry Hilériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Lou.
Alors ce soir, une jeune musicienne dont le pari valait bien une messe.
Franck Ferrand, sortait de ce corps, mais bravo Laure, vous avez bien raison. Ce pari, sans S, c'est, pour paraphraser Félicien Bruce, celui des bretelles, puisque nous allons parler ce soir d'une jeune accordéoniste, Élodie Soulard. Elle et Félicien ont d'ailleurs plus d'un point commun, à commencer par leur âge, figurez-vous, 36 ans. Élodie est née 4 mois tout juste avant son collègue masculin et tous les deux ont grandi en Auvergne, l'un des berceaux de l'accordéon français. Tous les deux ont eu la révélation, l'appel, pourrait-on dire, pour l'instrument grâce aux musettes. Dans le cas d'Élodie, eh bien, c'est à l'âge de 3 ans, ses parents ne sont en aucun cas musiciens, mais ils l'avaient emmenée à une fête de musique dans le village où ils vivaient. Il se trouve que c'était un orchestre d'accordéon qui jouait. C'est donc d'abord par le musette qu'elle a commencé, 2 ans plus tard. L'école de musique voisine de son village ne disposait pas de classe d'accordéon classique, mais son professeur de l'époque avait, lui, une formation, tout ce qu'il y a de plus classique, et il a su déceler en elle l'âme d'une future accordéoniste de concert.
Intuition des plus prophétiques, puisque Élodie Soulard mène aujourd'hui une brillante carrière d'accordéoniste classique, justement.
Eh bien oui, après des études au conservatoire de Clermont-Ferrand, tout d'abord, puis au CNSM de Paris, dont la classe d'accordéon, rappelons-le, n'a ouvert qu'en 2002, eh bien c'est sa rencontre avec le virtuose russe Yuri Chichkin, qui deviendra son mentor pendant 2 ans, qui lui a fait prendre conscience du potentiel de son instrument. Il m'a appris à voir chaque clavier et ses registrations comme un petit orchestre dont nos doigts sont autant d'instrumentistes service de la musique, dit-elle, un précepte qui nourrit encore aujourd'hui chacune de ses interprétations, alors que ce soit en qualité de soliste, comme en témoignent ses albums solo déjà parus chez Nomad Music, et ses nombreux récitals, notamment l'été sur les festivals, ou bien en qualité d'accompagnatrice, comme en ce moment au Théâtre de l'Athénée, où elle reprend, comme vous l'avez laissé entendre, la petite messe solennelle de Rossini. C'est dans la réjouissante et burlesque version mise en scène par le duo Joss Houben et Emily Wilson, dont l'imagination débordante a cette capacité unique à transformer le moindre objet en sujet d'émerveillement. Une production, on s'en souvient, qui avait été montée par la coopérative fin 2019 et qui continue donc son miraculeux pèlerinage sur les scènes de France et de Navarre. Élodie y retrouve quelques-uns des artisans qui avaient présidé à la création du spectacle à l'époque, à l'instar du chef Gildas Pargier et de la pianiste Colette Diard qui lui donne la réplique, mais aussi du chœur de chambre, les Mélismes, ou encore du brillantissime jeune ténor Seyratia, dont nous avions d'ailleurs également brossé de portrait dans cette chronique.
Eh oui Thierry. Et puis Élodie Soulard renoue surtout avec une œuvre qui lui tient particulièrement à cœur.
Eh oui Laure, et pour cause, Élodie Soulard n'a pas peur de l'avouer, sa foi envers la musique et la force spirituelle de cette dernière n'a d'égal que sa foi en Dieu lui-même, car chez cette fervente catholique qui s'est vue consacrée, figurez-vous, il y a 1 an et demi dans l'ordre des Vierges du diocèse de Nanterre, eh bien vocation musicale et religieuse se font écho l'une à l'autre. Après avoir un temps hésité à embrasser la vie monastique, elle a d'ailleurs choisi de rester musicienne professionnelle, partageant aujourd'hui sa vie entre le service de l'Église et son agenda de concert, convaincue à juste titre que la musique pouvait être vecteur d'une dimension sacrée. Eh bien, ce n'est certes pas Rossini qui l'aurait contredite, c'est lui qui avait achevé sa petite messe par cette fameuse dédicace divine, toute pleine de cet humour et de cette joie de vivre auquel la présente production fait écho. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique? Peu de science, un peu de cœur, tout est là, sois donc béni et accorde-moi le paradis. Avec Élodie Soulard dans la fosse, eh bien on le lui accordera bien volontiers et sans confession.
Thank you.
Quelques notes de Tchaïkovski transcrites pour l'accordéon, la barcarolle de juin tirée du cycle Les Saisons, jouée par Élodie Soulard. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait d'Élodie Soulard.
Merci à vous. Non.
Et à très bientôt. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, notre invitée sera la comédienne et metteuse en scène Emeline Bayard qui viendra nous parler d'un spectacle de Reynaldo Hahn, une œuvre que vous connaissez, dont, vous devez siffloter, voilà,
oui.
Dont vous devez siffloter quelques airs. Le trio du Bellecodi. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.